Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.
Eh bien, bonjour Valérie. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ton rôle aujourd'hui dans l'organisation de la fête de la fraternité ?
Eh bien, il se trouve qu'il y a un an, on a fait une première fête de la fraternité. À petite échelle, parce qu'on ne savait pas trop si ça allait répondre. Et ça a été le jour où on a fondé la plateforme des comités pour l'accueil des réfugiés en Drôme-Ardèche-Vaucluse. Des gens étaient venus de loin, de Die, de Lefi, de Montélimar, pour se rencontrer pour la première fois et fonder cette plateforme. Elle a été fondée pour deux objectifs principaux. L'un, c'était de s'unir pour peser davantage par rapport aux institutions pour favoriser l'accueil de migrants en France, qui étaient à l'époque très bloqués à cause des attentats. Et l'autre but, c'était de pouvoir entre nous échanger des informations et des expériences, puisque accueillir une famille, c'est vraiment une grosse responsabilité, l'accompagner dans les démarches, dans l'apprentissage du français, dans le fait qu'ils sont d'une culture différente de la nôtre et qu'il faut qu'on fasse des pas les uns vers les autres et que tout ça se passe dans l'harmonie. Donc il y a beaucoup de choses à échanger et je crois qu'il va y en avoir d'autant plus de façon urgente les temps à venir.
Et du coup, la plateforme, elle organise quel type d'événements ? Donc aujourd'hui, elle coordonne la fête de la fraternité et tu parlais d'échanges entre les différents comités. Est-ce qu'il y a des lieux où ça s'est déjà passé ?
Oui, cet été, en juin, sur l'hippodrome de Carpentras, on avait rejoint le comité de Carpentras qui a fait une grande journée de solidarité avec plein de concerts, un peu festifs comme aujourd'hui, mais en plein été. Et on était venus pour les soutenir et puis participer à l'animation. Et ils avaient pu, grâce à cette journée, récolter des fonds pour pouvoir aider tous les réfugiés qui avaient ou non le statut encore, qui étaient au centre de Carpentras. Beaucoup d'Afghans et de Soudanais, jeunes Afghans et jeunes Soudanais, qui étaient vraiment dans le besoin.
Et du coup, moi j'ai une question un petit peu plus sur l'événement d'aujourd'hui. Pourquoi appeler ça la fête de la fraternité ?
Sur le calendrier officiel, il n'y a pas de fête de la fraternité. Il y a des fêtes de saints, il y a des fêtes de 14 juillet qui sont quand même des fêtes synonymes de liberté et d'un peu de violence aussi quelquefois avec des défilés militaires, etc. Et puis nous, on avait envie dans le contexte de dire qu'on était pour l'hospitalité et la fraternité et qu'on est tous frères sur cette terre.
Et du coup, plus concrètement, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire se rencontrer les différentes familles, les différents comités
L'objectif, il est double. On peut dire qu'il y a l'objectif concret qui est l'échange et la rencontre, puisqu'on vient de loin quand même, tous. Il y a des gens qui viennent d'assez loin, qui viennent d'Alex, qui viennent de Pierre Latte, etc. Enfin, qui ont pris le temps de venir aujourd'hui, en plein hiver, de faire le trajet. Il y a ça, et c'est important qu'on se rencontre de temps en temps. Mais il y a aussi que... On est en France dans une atmosphère qui peut être parfois très délétère. À Alex, par exemple, quand le centre s'est ouvert, il y a eu une réaction du Front National qui a été très hostile. Et nous, on veut faire exister autre chose. On veut montrer qu'en France, il y a autre chose qui existe. Et qu'on gueule peut-être pas fort comme eux, mais que ce qu'on propose, nous, c'est la fête, c'est le vivre ensemble, la joie et le partage. Et en France, en ce moment, je crois que c'est important.
Et donc, du coup, il y a l'air d'avoir une bonne fréquentation sur cette fête aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, nous décrire un petit peu comment ça se passe et qui est là
Comme on dit, c'est un joyeux bordel, quoi. Mais c'était prévisible parce que ça ne serait pas le cas, ça voudrait dire que peu de gens seraient venus, alors que là, on a une énorme influence. Et cette influence, elle est bien sûr synonyme de diversité complète, puisqu'il y a des réfugiés venus de tous les horizons, afghans, soudanais, irakiens, syriens, palestiniens et j'en passe. Il y a aussi des gens d'ici qui viennent d'ailleurs, il y en a plein, quoi. En fait, quand on regarde bien les histoires des individus, on vient tous d'ailleurs à un moment, en tout cas une partie de notre famille, et on est bien dans les baronnies. Et pour nous, c'est une terre d'accueil. Il y a un bien-vivre ici. Et la France, c'est ça aussi, quoi. Et nous, on est contents de faire partager ça à tout le monde.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci, Maud, pour votre présence.
Je vais vous donner une phrase. Et donc, on a la ligne imaginaire. De ce côté-là, vous allez vous placer si vous êtes d'accord. Et de ce côté-là, si vous n'êtes pas d'accord. Ok ? Alors la phrase, c'est « Dans le monde, nous sommes tous égaux ». Alors maintenant, je vais vous demander de chaque côté de la ligne de faire des groupes de 3 personnes et de réfléchir à un argument qui va venir justifier le fait que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Une personne de chaque côté va prendre la parole et énoncer un argument pour dire pourquoi il est d'accord ou pas d'accord. Si l'argument énoncé d'un côté, il fait écho chez nous alors qu'on est posé de l'autre côté, on peut faire un pas vers l'autre en disant « Ah, ça me plaît », mais quand même retourner dans son camp. Ou alors, on peut faire un pas vers l'autre et de dire « Voilà, moi, je m'installe dans ce camp parce que ton argument m'a convaincu. » Ok ?
Bonjour. Alors moi, je pense qu'on n'est pas égaux parce qu'il n'y a pas d'égalité des accès. Les accès à l'eau potable, les accès à l'éducation, les accès à la nourriture, les accès au logement, les accès au travail. Voilà, on n'est pas égaux du tout. Suivant le pays où vous êtes né, suivant la famille où vous êtes né, il n'y a pas les mêmes accès.
Alors nous, on pense qu'on est tous égaux, égaux parce qu'on est tous des humains, et quand on arrive sur Terre à la naissance, on est tous égaux.
Oui, mais déjà à la conception, on n'est pas égaux, parce que on peut être né par amour, d'amour de nos parents, mais on peut être né par rapport à un viol, on peut être né par rapport à... Donc on n'est déjà pas égaux quand on est dans le ventre de sa mère, je pense.
Ok.
Alors, pour moi, on est tous égaux parce qu'on est tous dotés de la vie.
Ok.
Bonjour, je vais donner mon expérience personnelle. Je pense qu'on est tous égaux. C'est notre constitution qui le dit, en droit au moins. Mais mon ami Coluche, il dit qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Voilà, merci.
Ok. Un autre argument, à droite, à gauche ? Quelqu'un ?
Moi, je pense qu'on n'est pas égaux parce qu'on n'a pas les mêmes choses à manger, on vit pas la même vie et on vient pas des mêmes pays.
Alors, on est tous égaux parce qu'on reste des humains et qu'on a tous la même valeur, peu importe d'où on vient. On est différents, mais égaux.
Moi, si je me suis mis du côté des non-égaux, c'est parce que je crois que c'est un devenir. C'est-à-dire que, bien sûr, on est tous égaux a priori, mais en fait, en réalité, on ne l'est pas. Et le problème, c'est de le devenir. Et tout à l'heure, monsieur disait, il citait la Déclaration des droits de l'homme qui dit « on est libre et égaux en droit ». Et c'est le droit qui est important. C'est-à-dire que ce qu'on a à défendre, c'est le droit à l'égalité. Et c'est sur ça qu'il faut se battre, parce que là ça y va, hein, contre le droit à l'égalité. Mais après, moi, je suis un peu toujours très sceptique par rapport aux notions essentialistes. Et je crois que c'est comme l'identité, c'est un devenir. Hein. On tend vers, et il faut se battre pour tendre vers. Donc voilà, on n'est pas égaux, mais on cherche à le devenir.
Alors, est-ce qu'on a d'autres arguments de part et d'autre ? Non ? Allez-y.
Oui, la Constitution dit effectivement on est libre et égaux en droit. Et la réflexion de la petite fille était intéressante, c'est que sur la Terre, il y a des différences de potentiel. Nous, en France, on est à une latitude tempérée, il pleut, il y a du soleil. Si on est au Groenland, il fait très froid. Si on est au Sahara, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc effectivement, le lieu où on est détermine aussi un peu le potentiel de vie, de survie, de développement économique. Et du coup, les frontières apparaissent comme des murs qui empêchent de donner la liberté aux gens. Il y a tout le temps des migrations. Nous, on vient de l'Afrique il y a quelques centaines de millions d'années. Effectivement, les frontières empêchent les gens d'aller vers les zones où il y a plus de potentiel. Et c'est pour ça que je dis souvent que les frontières sont tous des cicatrices de l'histoire, un gaspillage et annoncent un crime.
Merci.
Radio Libre.
Alors, Rad, moi, je voudrais te demander une question qui me tient vraiment à cœur. C'est, tu es arrivé dans les baronnies il y a un an et demi, c'est ça, hein ?
Oui.
Et j'aurais voulu savoir, pour toi, oui, et ton épouse, est-ce que votre situation professionnelle, sociale, ici, dans les baronnies, est-ce que ça a évolué ? Et comment ?
Non, pas encore, parce que je suis travailleur graphisme et technicien. J'ai cherche un peu loin, mais il n'y a pas c'est très difficile pour trouver la même métier. Oui, c'est le problème, ça.
Ton permis de conduire, est-ce que c'est bon?
Oui, c'est beau, tout marche. Oui, j'ai les voitures aussi, je conduis bien. C'est le même système de route d'Irak, mais c'est différent pour l'autoroute. Il n'y a pas d'autoroute en Irak. C'est l'Irak, toutes les routes, c'est gratuit. En France, il faut payer. C'est très difficile pour nous parce qu'on n'a pas de travail pour payer toujours.
Par rapport à ton travail, à ta situation professionnelle, est-ce que tu as eu des formations? Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi?
Oui, c'est le Pôle emploi d'Unions. Il y a une dame qui s'est conseillée, elle m'occupe bien. Toujours, elle cherche le même métier, mais elle a besoin de temps pour trouver ça.
Tu cherches un métier de graphiste?
Oui, graphiste, mais technicien aussi.
Technicien. Et technicien?
Informatique.
Informatique.
Oui.
Et moi, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette fête aujourd'hui?
C'est bon, en fait. En fait, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est content. Nous sommes contents aussi. Les participations par les danses irakiennes traditionnelles.
Et vous avez du monde qui a dansé avec vous pour les danses?
Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui danse avec nous. Je suis très content avec tout le monde.
Oui, moi je suis Bernard Cornu, j'ai 15 ans d'expérience du Moyen-Orient, même 40, puisque mon premier voyage c'était en 68, dans tout le Moyen-Orient, en Syrie, en Turquie, en Irak, en Égypte, au Liban et même en Libye. Voilà. Et donc je connais bien la situation, j'ai toujours été bien accueilli partout, j'étais en autostop, j'ai dormi parfois dehors, j'ai été invité par des gens partout. Je crois que j'ai une dette de gratitude envers les pays du Moyen-Orient qui méritent beaucoup plus que l'image qu'on leur donne et que les événements difficiles du terrorisme, de la guerre donnent. Je crois qu'il faut voir tous ces amis-là avec beaucoup plus de sympathie. Je crois que d'ailleurs tous les gens qui sont allés en vacances en Syrie, puisque la Syrie s'ouvrait au tourisme dans les dernières années, savent que les Syriens sont des gens gentils, accueillants et qui méritent mieux d'être connus dans leur culture, dans leur langue, dans leur civilisation et dans leur tradition. Tous les émigrés, leur premier souci, c'est d'essayer de trouver un travail, que leur profession soit connue et qu'ils puissent s'insérer dans leur métier avec des sociétés. Alors c'est là où c'est difficile parce que le droit ne le permet pas toujours. Je pense qu'il faudrait en France arriver à s'occuper mieux de cette intégration professionnelle des émigrés, qu'il faut définir, je pense, plus par leur profession que par leur pays d'origine ou pire par leur religion. Je crois que les gens doivent dire je suis vétérinaire, je suis graphiste, je suis informaticien, je suis infirmier. Et je crois qu'il faudrait faire des efforts dans ce sens-là pour identifier les immigrés par ce qu'ils sont professionnellement et trouver les moyens de leur permettre de un peu gagner leur vie et de s'insérer dans la société professionnelle française.
Valérie pour le CARDAV.
Alors, pour les comités d'accueil de réfugiés, c'est un appel que je lance puisque sur Buis-les-Baronnies, une famille irakienne va sans doute être accueillie. C'est une famille qui est de la même grande famille que Raad Marroquet et tous les Marocains. Et on a pratiquement sûr maintenant, c'est bien parti, trouver une maison pour eux en plein centre de Buis. Mais le logement, ça ne suffit pas, un logement pour accueillir. Il faut vraiment que les gens du coin se regroupent pour fonder un comité à Buis-les-Baronnies pour accompagner cette famille. Donc, il y a un cahier bleu, un joli cahier bleu qui est sur la table d'accueil dans le hall. Et donc, les gens de Buis-les-Baronnies et alentour qui seraient intéressés pour participer à la fondation de ce comité, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées parce que sans comité, on ne pourra rien faire. Hein. C'est, comme je viens de le dire, le logement ne suffit pas. Il faut savoir qu'on a quand même l'appui de la mairie. La mairie est tout à fait favorable à cet accueil. Voilà. Par ailleurs, donc, les gens des comités d'accueil qui auraient des choses à dire, ou même les autres, si vous avez envie de vous exprimer sur ce qui nous a réunis aujourd'hui ou sur des infos que vous voudriez partager, c'est le moment, avant que la fête reprenne.
Moi, je viens vous apporter le bonjour du collectif d'Alex, parce que d'abord, vous étiez venu lors de notre rassemblement à Alex, donc c'est un retour, déjà. Alex, on n'a pas tout à fait la même problématique ici, puisque ce ne sont pas des familles hébergées chez des gens, c'est des CAO, ce sont les gens de Calais qui ont été mis ici, isolés dans la campagne, avec une grosse campagne de l'extrême droite et de la mairie, parce que là, la mairie n'est pas avec nous, c'est une mairie qui voulait faire un référendum pour refuser les réfugiés. Et depuis le mois de novembre, le comité d'Alex se réunit dans le village lui-même. Alors ça, c'était déjà notre première victoire. La deuxième victoire, c'est que maintenant, on accompagne les réfugiés dans le CAO. Et nous venons de passer à une troisième phase, et c'est pour ça qu'on venait vous voir. Parce que la troisième phase, maintenant, c'est... On avait promis à ces gens d'être là pendant 2 mois et que leur dossier serait traité. Une promesse avait été faite par le gouvernement que tous les gens qui étaient rentrés, soit par l'Italie, soit par la Hongrie, seraient pris en charge en France. C'est ce qu'on appelle les fameux Dublin. Eh bien, maintenant, ils veulent faire respecter la directive Dublin, c'est-à-dire renvoyer tous les gens qui ont eu des entrées en Italie, en Autriche, en Hongrie notamment, les renvoyer là-bas pour faire traiter leur dossier. Ça, pour nous, c'est inacceptable. Ces gens sont maintenant assignés à résidence au CAO. Nous avons pris la décision de ne pas laisser faire cela. C'est-à-dire que s'ils veulent ne pas aller en Hongrie, ne pas aller en Italie, donc il y aura un appel à toute la population drômoise pour, pendant quelques jours, loger des gens, jusqu'à ce qu'on trouve après d'autres solutions pérennes avec eux, mais en tout cas dans les urgences. On a mis en place un numéro de téléphone d'urgence avec les gens du CAO, enfin les réfugiés, et on va voir un peu comment ça se passe. Pour nous, il est hors de question que la police vienne chercher quelqu'un à 2h du matin au CAO et pour le ramener en Hongrie ou en Italie. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a pris la décision aussi de suivre votre collectif à vous. C'est pas la peine de faire 50 collectifs, il y en a un qui existe ici. On va donc se rattacher à votre plateforme au moins pour être au courant. On est en contact également avec le collectif de Chaumérac, qui est plus dans votre situation à vous, c'est des familles qui hébergent. Et avec le collectif de Saint-Hilaire-du-Rosier, Ardèche-Drôme, qui lui est comme dans la même situation que la nôtre, c'est-à-dire CAO. L'idée générale étant de dire que la Drôme est une terre d'accueil et qu'elle doit le rester. Voilà, merci à vous.
La Drôme, terre d'accueil, voilà un beau mot de la fin. Alors, il va falloir, pour des raisons, comme ce monsieur vient de nous le dire, pour ces gens qui risquent d'être expulsés du jour au lendemain, qu'il va falloir peut-être aider, puisque l'État n'a pas respecté ses engagements auprès de ces gens. Donc, ce n'est pas nous qui sommes en tort, hein, en l'occurrence. C'est l'État qui ne tient pas ses engagements. Donc, il va falloir se mobiliser, certainement, à certains moments. N'hésitez pas à rester avec nous pour aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. Mais derrière la fête, il y a tout ça. Hein ? N'oubliez pas.
Ensemble. Ici.
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 Ici. Radio Livre.
Radio Livre.
Radio Livre.
La radio des initiatives.